Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Peut-on, en utilisant la nature, lutter et contrer le réchauffement climatique ? Une question que nous allons nous poser dans quelques minutes avec Antoine Leroux, spécialiste de la question à l'Agence bretonne de la biodiversité. Mais avant, pour amorcer ce sujet, direction Lanester, près de Lorient, dans le Morbihan. Ici, une école a décidé de casser le bitume de sa cour pour y planter des arbres. Enfants, parents, professeurs et mairies y ont tous contribué. La revégétalisation d'une cour d'école, c'est un sujet de Sabine Croix, de Radio Balise.
Hop. Alors on va se rapprocher, et j'attends Madame Perron et Madame Métayer, puis les enfants qui vont venir nous parler un petit peu de ce qu'ils ont fait.
Je suis Catherine Perron, je suis enseignante à l'école Paul Angevin élémentaire, et ce depuis déjà 4 ans.
Alors, comment avez-vous eu l'idée de mener un projet autour de la forêt ? C'est ça le cœur, la forêt s'invite à l'école ?
La forêt s'invite à l'école. Depuis déjà 4 ans, je plante une haie et je renouvelle cette expérience d'année en année. La première année, j'ai planté une haie avec ma classe. Puis la deuxième année, nous étions 2 collègues à le faire. La troisième année, j'ai demandé à la mairie de m'accompagner sur un projet un petit peu plus grand avec une centaine d'arbres. Et comme la mandature de la mairie était sur la végétalisation de la ville. C'est pour ça qu'on a réussi à faire ce projet collaboratif en invitant les parents, les animateurs, et que ça fait une sorte de boule de neige qui nous a mené jusqu'à la plantation de la mini-forêt.
Donc une mini-forêt, c'est ça qui... Vous avez planté une mini-forêt, c'est quand même...
C'est ça, on a planté une mini-forêt de 540 arbres. Donc on a beaucoup réfléchi sur l'emplacement, sur les végétaux qui allaient être plantés, sur pourquoi le faire. S'interroger sur le devenir de la planète, le réchauffement climatique. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'une forêt ? Aller visiter la forêt qui est tout à côté de chez nous, regarder, entamer des marches vertes. Finalement, c'est un projet qui déroule beaucoup d'autres activités attenantes. Ça a aussi plongé notre école dans une labellisation au 3D et questionné sur toutes les actions qu'on menait et qui correspondaient à cette labellisation. Préserver la nature, mais ne pas gaspiller. Alors, ne pas gaspiller quoi ? Ne pas gaspiller l'eau, ne pas gaspiller la nourriture. Donc, ça retournait aussi bien sur la cantine que sur le papier qu'on jetait dans les classes. Finalement, ça déborde. Une forêt qui déborde dans les classes.
Je m'appelle Cléo, j'ai 7 ans. Je suis née le 9 septembre.
Alors, tout à l'heure, tu as lu un mot qui parlait de la végétalisation de ta cour. Tu peux nous le relire ?
La mini-forêt, les arbres, c'est important pour nous, pour respirer et aussi pour les insectes. Le midi, à la cantine, pour ne pas gaspiller d'eau, nous arrosons des arbres avec le reste des bichets. Prendre soin de la nature, c'est comme prendre soin de soi.
Je m'appelle Angelo, j'ai 8 ans.
Alors toi, tout à l'heure, il disait que tu étais responsable de plantation. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je dois surveiller les plantes, par exemple en classe, s'il y en a, et par exemple proposer des choses pour qu'il y ait plus de plantes à d'autres endroits. Aussi, j'ai apporté de la guimauve en classe.
C'est une plante, la guimauve ?
Oui.
Ou c'est pas vrai ?
Si,
c'est une plante un peu rose blanche, et en plus, avant, on l'utilisait pour soigner les gens comme les grippes ou les rhumes, un truc comme ça. Et maintenant, on s'en sert comme un bonbon maintenant.
Et donc ça se mange comme les bonbons ou pas ?
Les racines. On fait une préparation avec les racines pour faire de la guimauve au bonbon.
D'accord. Et vous, vous avez quoi comme souvenir là de la plantation ? Vous y étiez tous les deux ?
Il y avait... les maîtresses et les maîtres qui enlevaient le bitume et nous on enlevait les petits morceaux et eux les plus gros.
D'accord, donc il y avait double coupe.
Ouais, il y avait double épaisseur de.
Pas mal.
Tout à l'heure, dans la salle, donc, il y avait une petite expo photo. Et on revoyait le moment où justement vous aviez enlevé le bitume. C'était une journée où les cheveux frisaient.
Alors, les cheveux frisaient, exact. C'est vrai, c'est vrai. Il pleuvait, mais on a été surpris. On a posé la benne et il a fallu les arrêter. Les enfants voulaient tellement enlever tout le bitume que si on ne les avait pas arrêtés, je pense qu'ils auraient enlevé toute la cour. Et quand on a invité les parents, il y avait un tracé sur le sol et certains papas sont arrivés avec des baramines. Et c'était joyeux, c'était convivial, c'était agréable. C'était vraiment une expérience de rencontre. On travaillait ensemble pour le bien-être des enfants, mais pour le bien-être d'un quartier aussi.
Et ensuite, techniquement, concrètement, comment ça s'est passé? On a commencé à regarder déjà où implanter la mini-forêt. Et puis on a trouvé aussi l'élément qui a été un peu, c'est un peu symbolique, mais l'élément qui nous a permis de dire, tiens, ça peut être sympa, c'était la souche que les élèves adorent grimper. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'aménager cette partie de cours. Il fait 180 mètres carrés.
Fabien Vittel, je suis le responsable du service environnement à la ville de Lanester.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la technique de plantation qui a été choisie?
Alors, il faut savoir que déjà on est parti sur des essences forestières, des pépinières qui partent de semis naturels. Il en existe très peu finalement en France, puisqu'il n'y en a que trois qui sont en capacité de fournir des plants en racines nues. Alors pourquoi en racines nues? Parce que ce sont des plantes qui ont la faculté en fait de pouvoir reprendre beaucoup plus facilement sur un support qui n'est pas le support sur lequel ils sont habitués à pousser dans un premier temps. On est parti sur des essences locales, comme le chêne, le châtaignier, le hêtre, et puis également de la bourdaine pour un peu compléter la strate arborée de la cour.
Tu fais Bruno? Si, si, si. Ouais, non, tu n'as pas qu'écouter, tu vas participer.
Bruno Veil, mairie d'Anester, service environnement, et je travaille au bureau d'études.
Et alors, je voyais que c'était inspiré d'une méthode d'un botaniste japonais.
Oui, M. Miyawaki, qui a développé ce type de forêt, donc qui s'inscrit dans des mini-forêts. Le principe, c'est une plantation très dense, parce qu'on est à 3 arbres au mètre carré. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on laisse pousser cette forêt. Et dans un monde idéal, la forêt deviendrait magnifique et puis ferait un îlot de verdure et un îlot de fraîcheur.
Donc là, l'idée, c'est que les arbres, ils ont déjà un an, ils sont plantés. Il y a un entretien juste régulier qui est fait. Et après, on leur laisse faire leur vie, quoi.
Oui, tout à fait. Un entretien sommaire qui consiste la première année. Alors, à l'arrosage, l'ont dit les élèves, ils ont très bien expliqué. Donc régulièrement, ils viennent avec le pichet d'eau non consommé de la cantine pour le verser au pied des arbres. Donc ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus trop les habituer à arroser, parce qu'on va avoir un phénomène en fait de talage. C'est-à-dire que le système racinaire ne va pas aller en profondeur, puisqu'il sait finalement qu'il peut avoir de l'eau à profusion en surface. Donc il vaut mieux éviter les arrosages au bout d'un an. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, en termes d'entretien, il faut juste arracher grosso modo les plus grandes herbes, mais pas non plus tout arracher, mais plutôt laisser le végétal au pied, en couvre-sol, de manière à garder de la fraîcheur au sol, afin d'éviter l'évapotranspiration des plantes. Donc voilà, ce sont les deux règles, on va dire, après la plantation à suivre, de manière à ce que la forêt puisse se développer très rapidement et puisse ensuite poursuivre sa vie et puis le jeu de la concurrence naturelle. Nous, évidemment, que ce sont des projets sur lesquels que l'on adore, puis c'est certainement pas fini, parce que l'idée, c'est de faire perdurer ce projet-là et de le faire grandir ailleurs. Mais on est déjà, oui, en effet, sur d'autres groupes scolaires. Et là, d'aller peut-être encore plus loin, parce que je pense qu'il faut être ambitieux aussi dans ce genre de projet-là. On a vu que là, ça faisait une petite surface sur la cour d'école. Mais pour nous, l'idée, ce serait de faire une école 100% végétale.
Voilà pour ce sujet sur la revégétalisation d'une cour d'école à Lanester, près de Lorient. Un reportage signé Sabine Cros de Radio Balise. Pour aller plus loin, nous retrouvons dans les studios de Radio U à Brest Antoine Leroux, chef de projet solution d'adaptation au changement climatique fondé sur la nature à l'Agence bretonne de la biodiversité. Antoine Leroux, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre, ce qu'ont réalisé ses enfants, ses professeurs et ses parents avec l'aide des services techniques de la mairie? Est-ce que c'est assez emblématique des solutions à préconiser dans le cadre du réchauffement climatique?
Alors, je suis d'abord assez marqué par l'enthousiasme dans le reportage, hein, que ce soit la maîtresse, effectivement, les enfants, les parents d'élèves, les agents techniques de la mairie aussi. On sent qu'il y a une véritable appropriation, une acceptation hein, du projet. Donc il y a cet aspect très collectif que j'ai trouvé super intéressant. Et je crois que maintenant, dans les projets, c'est assez fondamental. Au travers de ce que nous, on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature, telles la végétalisation des cours d'école, on va apporter de multiples bénéfices. Et donc, on va à la fois améliorer le cadre de vie pour les élèves, mais pas seulement. On entendait dans ce reportage justement que cette action participait au bien-être des élèves, des parents et même du quartier. Donc, au-delà de la simple végétalisation d'un espace, c'est de nombreux sujets qu'on va pouvoir aborder. La question du gaspillage, la question des ressources, de la protection de la nature, de la biodiversité et du changement climatique. Et justement, sur ce dernier point, la végétalisation, elle joue un vrai rôle dans l'adaptation des territoires au changement climatique. Et donc, on a tous fait un peu l'expérience ces dernières semaines entre un espace très, très végétalisé, arboré, tel un parc, et une rue plutôt minérale où il n'y a pas d'ombrage. Il y a une vraie différence de chaleur. Donc, la végétalisation, elle participe à lutter contre les îlots de chaleur urbains en apportant beaucoup plus de fraîcheur, de l'ombre aux concitoyens.
Cet enthousiasme, vous le constatez souvent dans ce type de projet ?
Oui, on le voit et puis j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus aussi depuis la pandémie. En fait, on voit qu'on a ce vrai besoin de reconnexion à la nature. On a beaucoup de projets collectifs, participatifs dans les logements, dans les habitations, dans les espaces partagés en fait, où on va se reconnecter à la nature. Et je trouve super intéressant, on voit la dynamique avec les enfants, je trouve ça super valorisant et plutôt encourageant pour la suite, pour l'avenir des prochaines générations, quoi.
Oui, les enfants, quelque part, ce sont les prochains ambassadeurs du changement climatique.
C'est ça, il y a un vrai enjeu autour des enfants. On le voit aussi avec le succès qu'on peut voir avec ce qu'on appelle, nous, des projets des aires éducatives. C'est des espaces qui sont naturels, gérés par des enfants. Donc ça, c'est des projets aussi qui responsabilisent les enfants et qui, il y a une vraie dynamique autour de ces sujets.
Alors, si on parlait un peu chiffres, quelle est l'urgence d'accélérer ce type d'action au niveau régional en Bretagne et également au niveau national en France ?
Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier les impacts du changement climatique. On ne peut plus dire non plus que le changement climatique il est réservé à d'autres régions, à d'autres pays. La Bretagne, elle n'est pas et elle ne sera pas épargnée par le changement climatique. On observe des phénomènes météorologiques, climatiques de plus en plus intenses. Je pense aux tempêtes, aux orages, aux canicules, avec plusieurs vagues de chaleur qui se sont succédées, avec des records de température qui ont été battus. Je rappelle, 39,3 degrés à Brest, c'était du jamais vu depuis 1949. Et donc ça, c'est des événements exceptionnels qui vont perdurer, qui vont s'intensifier ces prochaines années, ces prochaines décennies. On peut penser notamment aussi aux incendies. On pensait que la Bretagne était longtemps épargnée par les incendies. On voit ce qui s'est passé dernièrement dans les Monts d'Arrée. Donc voilà, tout ça, malheureusement, c'est des événements qui vont s'intensifier ces prochaines années. Et là, les scénarios du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous montrent qu'on va se tourner vers des scénarios d'augmentation moyenne de 2 à 3 degrés d'ici plusieurs décennies. Et on va avoir donc des périodes de canicule qui vont s'intensifier. Donc, on parlait tout à l'heure sur le sujet des cours d'école. Les phénomènes d'îlots de chaleur urbains dans les écoles en juillet-août, ça ne posait pas trop de problèmes parce qu'on n'avait pas d'enfants en juillet et en août. Mais avec des canicules qui vont être beaucoup plus longues, dès le mois de juin, en fait, on aura des événements de chaleur, des épisodes de chaleur assez extrêmes. Et également en septembre. Donc, il y a urgence à s'adapter. Et donc, l'augmentation générale des températures, elle va avoir des impacts sur notre économie, sur la nature et la biodiversité qui est déjà fortement fragilisée. Et donc, on doit dans tous les cas s'adapter à ce climat de plus en plus hostile. Donc, il est urgent d'agir dès maintenant, de mettre en œuvre les mesures d'adaptation. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, un espace végétalisé en température ressentie, c'est 5 à 10 degrés de moins qu'un espace qui est totalement minéral. Donc, il y a un vrai intérêt de mener des actions aujourd'hui de végétalisation, parce que 5 degrés, mine de rien, c'est assez énorme. Donc, il est important de pouvoir déployer partout ces solutions.
Alors, cette action qu'on a entendue tout à l'heure dans le reportage a été menée très localement. Est-ce que cela fait réellement avancer les choses, ces actions très localisées ? Est-ce qu'on ne doit pas penser aussi sur des échelles plus grandes ?
Ah, bah, bien sûr, je pense que les actions locales, elles sont importantes. En fait, toute action qu'on appelle basée sur la nature, elles sont bénéfiques hein, pour l'adaptation au changement climatique. Donc, végétaliser nos villes, c'est redonner de la place à la nature et à la biodiversité. Parmi les cinq causes majeures de l'érosion de la biodiversité aujourd'hui, il y a le changement climatique et la fragmentation des habitats. Donc, l'enjeu, c'est bien de rétablir des espaces de refuge pour la faune et la flore, des corridors écologiques, hein, ce qu'on appelle les trames vertes et les trames bleues. Donc, la microforêt de l'école, ben, elle peut être proche d'un parc, d'un jardin, d'une zone humide, d'un cours d'eau. Et donc, c'est vraiment la multiplication de ces patchs de nature, donc des projets qui sont forcément réfléchis, évidemment, mais qui vont permettre aux espèces de se déplacer, de trouver des refuges. Et donc, cette microforêt, tout en faisant un îlot de fraîcheur pour les humains, elle va pouvoir héberger tout un cortège d'espèces, des petits mammifères, des oiseaux, des insectes, des mousses, des champignons. Et donc, la multiplication de ces projets locaux, portés par, très localement par des écoles, par des collectivités, par des communautés de communes ou des départements, eh bien, ça va s'intensifier et donc apporter des bénéfices beaucoup plus globaux sur le territoire.
Oui, on l'a bien compris, commençons local vers le global. Et de quelle façon, Antoine Leroux, l'Agence bretonne de la biodiversité que vous représentez aujourd'hui, s'investit fortement sur cette thématique ?
Alors, l'Agence bretonne de la biodiversité, tout d'abord, c'est un établissement public. Hein, donc, nous, on accompagne les porteurs de projets autour de la thématique de la biodiversité. Donc, pour cela, on va organiser des événements, des formations pour faire monter en compétences l'ensemble des acteurs. Ça peut être des acteurs professionnels, des entreprises, des techniciens, des agents de collectivité. On met à disposition des ressources, des guides techniques aussi pour les accompagner. Et puis, on va aussi les mettre en relation avec ce qu'on appelle le réseau de l'accompagnement. Donc, c'est des acteurs impliqués sur la thématique de la biodiversité en Bretagne qui vont accompagner les porteurs de projets aussi sur des questions plus ou moins spécifiques suivant leur domaine d'expertise. Et puis, un point qui est important, c'est la question des budgets. Tous ces projets, ça a un coût, hein, comme partout, et c'est souvent le nerf de la guerre. Donc, nous aussi, à l'Agence bretonne de la biodiversité, on accompagne, on oriente les porteurs de projets vers les bons financements. Donc, pour ça, on assure une veille auprès de tous les financeurs de la région Bretagne et nationale, d'ailleurs. Et donc, depuis mars 2022, nous avons cette nouvelle mission au sein de l'agence qui se situe en fait à l'interface entre le changement climatique et la biodiversité. Et donc là aussi, on va accompagner les acteurs du territoire pour avoir des projets très ambitieux, tant sur l'adaptation au changement climatique, donc prendre vraiment ce volet-là en compte dans les projets, et en préservant la biodiversité. Donc si les auditeurs souhaitent plus d'informations, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous sur cette nouvelle thématique des solutions d'adaptation fondées sur la nature.
Oui, on vous donnera exactement l'adresse du site de l'Agence bretonne de la biodiversité en fin d'émission. Outre la revégétalisation des cours d'école, quels sont les autres exemples d'actions emblématiques menées au niveau régional dans le cadre de cette adaptation au réchauffement climatique ?
Alors, la végétalisation, déjà, elle peut se faire aussi ailleurs que sur les cours d'école. Hein. C'est vraiment une action qui peut se faire partout, hein, sur les places, sur les parkings, sur les façades des bâtiments, sur les toitures des bâtiments. Plusieurs études montrent le vrai gain de la végétalisation. Pour vous donner un autre exemple, une toiture végétalisée en plein soleil, c'est à peu près 30-35 degrés, alors qu'une toiture dénudée de végétation, on peut monter jusqu'à 89 degrés. Donc, vous imaginez bien la différence qu'on peut ressentir à l'intérieur même des bâtiments. Donc, on parlait tout à l'heure aussi de l'augmentation des phénomènes météorologiques intenses. Donc, on va avoir aussi une modification de la pluviométrie. On ne va pas forcément avoir plus ou moins d'eau, mais c'est sur la fréquence. On va avoir beaucoup plus d'eau intense, donc des orages très violents l'été, par exemple, avec beaucoup de volume d'eau. Et on le voit hein, souvent en Bretagne, mais aussi ailleurs. Les phénomènes d'inondation, c'est lié à ça, c'est lié à beaucoup d'eau en très peu de temps. Et aujourd'hui, nos réseaux, ils ne sont pas adaptés, nos réseaux d'évacuation hein, d'eau ne sont pas adaptés à ces phénomènes intenses et donc ça déborde. Et donc, il y a beaucoup de solutions qui existent, qui sont fondées sur la nature. C'est ce qu'on appelle notamment la désimperméabilisation. Donc, c'est des collectivités qui vont se tourner vers la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc, la désimperméabilisation, c'est justement permettre à l'eau de s'infiltrer directement dans le sol, là où elle tombe. Donc, pour limiter justement tout ce ruissellement d'eau vers les canalisations et donc ces débordements. Donc, c'est très intéressant. Et la nature, là, elle joue un vrai rôle. Par exemple, à Lyon, ils ont développé ce qu'on appelle des arbres de pluie. Tous les écoulements des eaux qui viennent de la voirie ou des rues arrivent en fait au pied des arbres. Elles sont le cheminement par gravité. Elles arrivent au pied des arbres. Et grâce à un système de, le système racinaire des arbres, de la végétation qui est là, elles vont pouvoir infiltrer l'eau rapidement. Et donc, tout ce volume d'eau ne va pas arriver dans nos réseaux, dans nos stations d'épuration. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur la désimperméabilisation. Et il y a aussi beaucoup d'enjeux autour des autres espaces naturels. Je pense notamment aux zones humides. Donc, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Mais les zones humides, elles ont un vrai rôle aussi dans le changement climatique. C'est un peu le couteau suisse. Elles permettent d'atténuer en stockant du carbone. Elles ont ce phénomène de stockage d'eau massif. Donc aussi, en amont des villes et des villages, elles ont un vrai rôle pour réguler les phénomènes de crues et d'inondations. La restauration des cours d'eau aussi, éviter les à-coups hydrauliques. Donc, il y a vraiment aussi ce rôle de régulation des débits d'eau, finalement. Et puis, on a tous ces enjeux qui sont liés de manière globale aux incendies. Les incendies, on va avoir une adaptation aussi de nos forêts à mener ces prochaines années.
Donc, il n'y a pas que les milieux urbains où il faut agir. Les milieux périurbains et ruraux sont également concernés.
Tout à fait. Tous les milieux, en fait, sont concernés par le changement climatique. C'est un phénomène qui est global. Donc, tous les milieux, tous les secteurs vont être impactés. Je pense au milieu littoral. En Bretagne, on a un tiers du littoral métropolitain. On a beaucoup d'enjeux. On a des biens et des personnes qui sont très fortement présents sur le littoral. Donc, ils vont être menacés par l'augmentation des tempêtes, mais aussi l'élévation du niveau de la mer, donc avec des submersions marines qui vont être de plus en plus importantes. Le milieu forestier, donc on le voit là récemment sur le phénomène des incendies, mais aussi sur les maladies et les insectes ravageurs qui vont trouver un climat plus doux, donc qui vont pouvoir coloniser aussi nos forêts bretonnes. Et puis le milieu agricole, la Bretagne, région très fortement agricole, qui va devoir aussi subir des pertes de rendement importantes liées à la sécheresse, liées au manque de ressources en eau notamment, et puis l'érosion des sols aussi. C'est une grande problématique en Bretagne avec des coulées de boue, par exemple, qui vont s'intensifier. Donc, il faut vraiment agir partout de manière conjointe avec énormément d'actions. Mais c'est vrai que néanmoins, le milieu urbain, c'est là où on concentre notamment les risques et la vulnérabilité du territoire. Donc, effectivement, c'est peut-être aussi un des milieux les plus prioritaires.
Alors, on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, c'était une collectivité qui agissait là dans l'adaptation au changement climatique. Mais il n'y a pas que les collectivités qui doivent, a priori, s'engager également sur le territoire breton.
Alors, effectivement, les collectivités, elles jouent vraiment le rôle majeur, parce que c'est elles qui sont en charge de l'aménagement du territoire, du développement économique. Mais tous les secteurs peuvent et doivent agir pour la transition écologique. Donc, les entreprises, par exemple, elles ont des bâtiments, elles ont des parkings, elles ont des activités diverses et variées qui vont subir les impacts du changement climatique. Donc, elles peuvent agir à la fois sur l'adaptation, donc en végétalisant, en désimperméabilisant, on a donné des exemples, en récupérant les eaux de pluie aussi, qui peuvent servir pour leurs activités, plutôt que pomper dans les ressources. Mais je voudrais aussi rappeler que l'adaptation, elle est indissociable de l'atténuation. Et donc, il faut continuer aussi les efforts sur la réduction des gaz à effet de serre, sur l'isolation des locaux et puis sur les économies d'énergie, effectivement aussi.
Donc on a dit les collectivités, les entreprises, mais l'implication citoyenne est également importante.
Oui, elle est fondamentale. En Bretagne, on a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets, qui sensibilisent tous les jours nos concitoyens et on leur remercie grandement. Donc chacun et chacune peuvent agir dans son quotidien. Je pense à réfléchir comment on accueille la nature aussi chez soi, dans son jardin par exemple, avec on différencie sa façon de gérer son jardin, on multiplie les strates dans son jardin, on laisse un peu d'herbe pour la faune, la flore. Mais bien sûr, le changement climatique, c'est le combat de tout le monde qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc les projets d'adaptation, d'aménagement du territoire, les stratégies locales, elles peuvent pas se faire sans concertation, sans participation, sans appropriation de l'ensemble des acteurs. Et surtout, un élément important, c'est un portage politique fort. Et ça, les citoyens, ils ont un vrai rôle aussi à jouer dans la mobilisation de leurs élus, donc pour agir en faveur de l'adaptation au changement climatique.
Alors justement, dans cette adaptation au changement climatique, est-ce que les Bretons s'adaptent bien, justement ? Comment est-ce qu'ils sont peut dire, de bons élèves.
Alors effectivement, comme partout, hein, comme beaucoup de régions, je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus porté. Et ça, c'est quand même plutôt bienveillant. Heureusement, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. On a aujourd'hui des territoires engagés pour la nature en Bretagne. On a des collectivités qui s'engagent sur des atlas de biodiversité communale, par exemple. Donc, il y a vraiment un portage de plus en plus important. On voit encore, et malheureusement, on en voit encore des projets qui sont défavorables à la biodiversité ou qui ne prennent pas en compte la biodiversité ou le réchauffement climatique. Mais l'idée, voilà, c'est de montrer aujourd'hui les bonnes pratiques, les bonnes actions à mettre en place sur le territoire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples qui arrivent en Bretagne.
Est-ce que l'actualité, je pense notamment au problème d'approvisionnement en énergie fossile, peut accélérer justement ce mouvement d'adaptation ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que, effectivement, les crises économiques, sanitaires qu'on traverse, eh bien, ça a quand même le mérite d'avoir un vrai rôle de prise de conscience aujourd'hui de notre capacité à nous chauffer, à nous déplacer, etc. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, on a un rôle à jouer, nous, acteurs de la biodiversité, acteurs de l'environnement, de montrer les solutions alternatives qui sont possibles, et il y en a beaucoup, et donc de faire appuyer du local jusqu'au national, de la mobilisation citoyenne jusqu'au portage politique, d'agir pour ces solutions alternatives.
Alors justement, si nos auditeurs veulent s'informer précisément sur ces enjeux d'adaptation au changement climatique en Bretagne, quelles ressources pourriez-vous leur conseiller ?
Alors, pour toutes les informations sur l'environnement de manière très générale en Bretagne, vous avez l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, donc sur bretagne-environnement.fr, donc qui recense un peu toutes les données, toutes les ressources sur l'environnement. Ça va des déchets jusqu'à la biodiversité en passant par les énergies. Et pour suivre toutes les informations plutôt relatives à la biodiversité bretonne et être accompagné éventuellement par l'agence, vous pouvez vous rendre sur le site de l'agence, donc sur biodiversité.bzh.
Antoine Leroux, merci. Je rappelle que vous êtes chef de projet solution d'adaptation au changement climatique fondé sur la nature. Antoine Leroux, merci. Je rappelle que vous êtes chef de projet solution d'adaptation au changement climatique fondé sur la nature à l'Agence bretonne de la biodiversité. Merci également à Vincent Leyoc de Radio U à Brest pour la réalisation technique de ce duplex. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro de Biodiversité en air. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.